Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, je reçois Thomas Pourchaire, notre lecteur assidu et passeur de bons mots depuis deux saisons dans cette émission. Deux de ses textes viennent d'être publiés aux éditions Abstraction dans un recueil de nouvelles avec pour titre « Amorphine ». Guillaume, tu reçois Regular Girl, qui est arrivée sur notre plateau. Gaëlle, tu nous embarques pour ta première chronique sur la 17e Biennale d'art contemporain. Et Thomas, tu nous fais entendre, en fin d'émission, les mots de Florent Tonelio. Nous terminons avec les Gédéons pour prolonger le plaisir. Nous débutons avec mon premier invité, un passeur de mots attentif et curieux. Thomas Pourchaire, bonjour.
Bonjour Gaëlle.
Nous nous sommes rencontrés sur ce même plateau il y a deux ans pour évoquer l'actualité des éditions du Facteur Gallo, une maison d'édition fondée avec un groupe d'amis. Aujourd'hui, ce n'est pas le chroniqueur régulier de cette émission, mais l'auteur que je reçois, avec deux textes qui viennent de paraître aux éditions Abstraction dans un recueil intitulé « Amorphine ». Il y a deux textes, le premier s'appelle « Le souvenir » et le second s'appelle « La nymphe ». Tu écris depuis une dizaine d'années et tu as publié une première fois en 2021 avec Ève et l'ange ou la gravité négociable, aux éditions de l'Abstraction aussi. Et cette fois, ce sont deux textes courts. Peux-tu nous parler justement de ce recueil ? Comment ce projet collectif a-t-il vu le jour ? Et comment on fait le choix de deux textes qui vont aller dans un recueil collectif ?
Alors j'écris des nouvelles depuis un bail, hein. Ça doit faire plus de 15 ans que je me suis mis uniquement sur les textes courts. C'est vraiment ma forme d'expression naturelle maintenant, aussi bien en forme poétique qu'en forme nouvelle, et nouvelle en général assez brève. Celles-là, elles sont un peu moins brèves, mais elles ne sont pas très longues quand même. voilà, donc c'est vraiment devenu une forme d'expression pour moi. Naturel. J'évolue vers la composition vraiment d'œuvres importantes sur la base de fragments, mais j'ai pas mal de nouvelles dans les tiroirs et puis j'en écris encore.
Donc quand il y a le projet d'un recueil, on dit Thomas, est-ce qu'il y aurait un de tes textes ? Alors ce ne sont pas des textes récents. Du coup.
Les deux sont pas si vieux, non. Ça a dû évoluer un petit peu au fil de ce projet Amorphine, hein, que l'éditeur avait en main depuis un certain temps. C'est un éditeur assez récent qui est dans l'est de la France, chez qui j'ai édité deux de mes recueils, hein, déjà. Tu parlais des mélanges, il y a également du chaos et de la bonne digestion.
C'est vrai.
Des choses. Il m'a ouvert les pages de ce recueil. Il m'a demandé ce que je pouvais avoir sur le thème de l'étrange, puisque c'est le thème de ce recueil ou de cette anthologie. Il dit plutôt anthologie. C'est courageux, hein, un éditeur qui se lance dans une anthologie de nouvelles. Hein. La nouvelle, ça se lit quasiment pas en France.
C'est
dommage
vrai.
Parce que
j'adore.
On en parlait l'autre jour. Hein. C'est quand même une forme. Magnifique, épurée, parfaite.
Ouais, vraiment. Je lis beaucoup de nouvelles, moi.
Qui communique.
Je suis peut-être à rebours des autres lecteurs, mais moi j'en lis beaucoup.
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, j'avais celle-là qui me tenait à cœur. L'une est plutôt sur un registre amoureux.
Ça s'appelle Le Souvenir.
Sur Le Souvenir. Et bon, c'est plutôt assez joueur. C'est plutôt dans l'élan des Vélanges, hein, d'une manière. Et l'autre est plutôt politique, sur la façon dont un politique, un maire en l'occurrence, détourne une manifestation étrange pour l'exploiter à son profit. Tout simplement.
C'est exactement ça, il fait de la com, hein, ouais. Autour du cœur de la nymphe qui grossit, qui grossit, qui grossit. On n'en dira pas plus, il faut que les gens aillent lire. Moi je vais lire un petit extrait de Le Souvenir. Je ne sais plus bien, on s'est rencontrés dans la rue, ou bien à une soirée d'amis en commun, à moins que... Non. C'était chez le marchand de fromage. Elle avait choisi, en prenant son temps, beaucoup de temps, et donc beaucoup du mien, parce que j'étais dans la queue derrière elle, un Saint-Félicien très crémeux que j'avais justement choisi par avance. Et du coup, j'étais repartie sans mon fromage. Et ce n'est pas ce jour-là que nous nous étions vraiment rencontrés, même si j'avais tout aussi longuement que le Saint-Félicien observé avec ravissement ses cheveux noirs en tracite. Ou peut-être était-il blond ? Ou déjà blanc, le souvenir, est-ce qu'il en reste ? C'est intéressant en fait de questionner où est-ce qu'on se rencontre et qu'est-ce qui se passe au moment où on voit le ou la personne avec laquelle finalement on tombe en amour, comme diraient les Québécois.
C'est vrai qu'elle est assez terrible hein, sur le fond, cette humoristique. C'est vrai. Hein, je vais pas le cacher. C'est vraiment dans ce sens-là, mais effectivement, ça questionne ce qui en reste au bout de très peu de temps. Ce qui est vachard et en même qui fait qu'on fixe telle ou telle chose en réalité. Et puis quelquefois, bien au-delà des relations amoureuses, on se rend compte que la façon dont on se souvient recompose des réalités qui sont souvent pas reliées entre elles. Hein. Le souvenir, c'est vraiment une recomposition permanente. Hein. Les neurologues le savent bien maintenant. Donc c'est plutôt un clin d'œil à ça.
Alors le titre du recueil, c'est Amorphine. On est dans un néologisme qui mélange l'amour et la morphine. Moi, je le vois comme ça. Un peu comme quelque chose d'addictif dont on a un besoin fou, nous les humains, en fait, pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde un peu fou.
Oui, alors c'est marrant parce que moi, j'y voyais aussi le mot amorphe. Quelque chose, une relative passivité, quelque chose qui nous terrifie potentiellement. Il y a peut-être quelque chose de l'air du temps, d'ailleurs, dans ce lien que je fais avec le côté amorphe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le recueil que j'ai pas eu le temps de lire en entier, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, et puis j'ai eu des derniers jours assez saturés, mais le recueil s'ouvre quand même sur deux nouvelles que j'ai lues, l'une de Fanny Ciarello et l'autre de Laurence Cambin, qui font tous un lien vraiment avec notre présent. L'une par le canal Covid, c'est-à-dire on a tous vécu une phase très particulière de notre vie qu'on a mis derrière nous, et finalement, on n'y revient pas vraiment, on n'aborde pas non plus surtout la trace, laisse en nous ce passage-là, parce que finalement on a répété à l'envi à peu près tout ce que ça nous a fait à ce moment-là, mais par contre aller questionner la trace de tout ça en nous, c'est pas vraiment fait. Donc cette nouvelle de Laurence Cambin travaille ce sujet-là, et l'autre de Fanny Ciarello est plus sur le lien entre présence numérique et présence physique. Je vais pas en dire plus parce que c'est délicat, mais d'ailleurs c'est quelque chose c'est un lien qui m'intéresse pas mal au titre du facteur Gallo. Tu sais que notre projet sur cette maison d'édition, c'est l'inscription dans le paysage. On sème des livres à des endroits choisis par tous ceux qui nous soutiennent. Et donc, il faut un lien au territoire. Il faut reprendre pied, en quelque sorte. En plus de marcher, il faut reprendre pied dans le réel. Pour autant, c'est quand même par le numérique qu'on se fait connaître.
C'est vrai.
Voilà. Je sens un petit peu le même grand écart dans cette nouvelle initiale et ce que fait Fanny Ciarello. Mais bon, là c'est vraiment assez surnaturel.
Amorphine est un recueil vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas lu que tes textes, Thomas. Pour une autre raison, c'est que c'est un objet, un bel objet avec des œuvres d'art à l'intérieur. D'abord une photographie, et puis ensuite des œuvres dessinées, des œuvres graphiques qui viennent ponctuer ce recueil. C'est un objet singulier qui évoque pour moi certains livres que l'on faisait à l'époque du surréalisme, Amorphine aux éditions Abstraction. Merci beaucoup Thomas. On termine simplement avec un petit teaser. Bientôt un roman.
Alors c'est pas vraiment un roman.
C'est pas tout à fait un roman. Bon.
J'en discutais il y a très peu de temps avec l'éditeur parce que quand on sort un livre, en plus il faut le classer. C'est terrible. Il faut classer dans le système informatique, donc c'est soit poésie, soit recueil de nouvelles, soit roman. Mon truc, qui va sortir, il est hybride. je suis vraiment très très heureux qu'il sorte celui-là parce que je l'ai porté très longtemps. Plusieurs reformulations et à chaque fois, c'est comme un peu le cœur de ma nouvelle, hein, pour ceux qui la liront. Ça grossit progressivement, il y a quelque chose qui s'épaissit, il y a des couches qui se rajoutent dans le sens, dans la façon, dans les fragments, puisque c'est de la littérature fragmentaire, d'où le dilemme de classification.
Où est-ce qu'on le met ?
Voilà. Je trouve que les liens, peu à peu, se sont multipliés.
Alors, ça sera une grosse nouvelle.
Pour moi, c'est un assemblage de fragments qui fait un ovni, et je suis heureux qu'il soit comme ça. Donc, avec l'éditeur, on a convenu qu'on le classait en poésie, parce que finalement, c'est le genre le plus ouvert, le plus... Mais en fait, ça peut se lire comme un roman. Je pense vraiment, parce qu'il y a un tissage.
Et ça sort quand, Thomas ?
Ça sort en février.
Tu reviendras à ce micro ?
Ouais,
tu restes.
Si je suis invité.
On te retrouve tout à l'heure pour ta lecture.
Merci.
Tu vas nous lire un extrait de Florent Tognello. À tout à l'heure. Hello Guillaume, cette semaine tu es accompagné de Regular Girl. Tu vas nous présenter son univers. Merci à tous les deux d'être là.
Bah c'est surtout toi qui vas nous présenter ton univers. Donc tu as sorti un disque, ton premier, fait en mai. Il porte donc le nom de ton projet, il n'a pas de titre. Alors pourquoi Regular Girl? Qu'est-ce que c'est qu'une fille ordinaire?
Ça veut tout dire et rien dire. À la base, c'est un peu un jeu de mots avec mon nom de famille. Je m'appelle Rigler et donc du coup, lors d'un séjour aux États-Unis, une de mes amies qui est américaine, donc anglophone, m'a dit « Ouais, mais ça sonne comme regular qui veut dire ordinaire. » Et j'aime bien cette définition, en fait, de se sentir ordinaire et d'être capable aussi d'accomplir parfois des choses qui ne le sont pas. Et derrière, moi, je suis une regular girl, mais je pense parmi tant d'autres aussi.
Tu chantes en anglais.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de tous ces titres? Est-ce qu'ils ont été composés tous en même temps? Parce que moi, je trouve qu'il y a une vraie unité dans ce disque.
Ça a été fait sur un temps très, très long, sachant que Shelter, ça doit être le plus vieux morceau que j'ai écrit. J'ai dû l'écrire, je pense, il y a 10 ans, si ce n'est un peu plus. Et en fait, ce disque éponyme regroupe à la fois des morceaux que j'ai élaborés au fur et à mesure du temps et puis des choses un petit peu plus récentes. En gros, c'est la synthèse de 10 ans de travail, on va dire. Ce sont les morceaux choisis. En fait, la continuité qu'on peut comprendre à l'intérieur de ce disque, elle émane probablement du fait qu'elle suit la continuité de la vie. Et donc, du coup, les expériences s'enchaînent, la vie évolue, continue et... En fait, c'est un peu ce qu'on glane au fur et à mesure de ce disque.
Pour moi, c'est vraiment un des grands disques de cette année, vraiment. Que voilà, il y a un univers qui est particulier. Alors certes, c'est sombre, oui, pas toujours, parce
pas
que
toujours.
Shelter, justement, Shelter, bah, on va peut-être l'écouter, tiens. On va écouter Shelter, parce qu'il envoie grave, parce qu'il y a un sacré solo de guitare vers la fin qui est absolument génial. Shelter, tu viens de nous dire que c'était un des plus vieux titres.
Ouais.
Alors, c'est quoi cet abri, en fait ?
Cet abri, c'est un peu une chambre à soi, je pense. C'est un endroit où on se sent bien. Enfin, je pense qu'on trouve tous des abris aux endroits qui nous correspondent. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maison familiale, un appartement, dans les bras de quelqu'un. L'abri, il est ce qu'on veut, en fait.
Ça peut être un sous-bois, comme sur ta pochette.
Oui, voilà. Ça peut être un sous-bois, si on veut.
Voilà,
ça peut être n'importe où,
en fait. Cette pochette, elle est très belle, parce qu'en fait, d'habitude, les gens sont plutôt en gros plan. Là, t'es un petit peu perdu dans la nature, voilà.
En fait, c'est un travail qu'on a réalisé avec Marion Bornaz, qui signe la photo de mon disque, à la fois l'extérieur et puis il y a une photo à l'intérieur aussi de l'album. Moi, j'avais envie, quelque part, oui, de me perdre un peu dans la nature. Et cette histoire du chemin là, qu'on voit sur cette pochette, en gros, pour les gens qui ne la voient pas et qui pour l'imaginer, on voit beaucoup d'arbres, il y a un gros fond vert. Moi, je me retrouve sur un chemin et je suis sur un plan où, en fait, je suis un petit peu éloignée sur ce chemin. Donc, on me voit en pied, donc des pieds à la tête. J'ai une posture où j'ai à la fois les pieds tournés vers l'avant, mais le regard vers l'arrière, où je fixe l'objectif, où je regarde un peu les gens dans les yeux, et en même temps je pense que c'est une façon pour moi une façon métaphorique de dire que je regarde mon passé dans les yeux mais que je me dirige vers quelque chose d'autre qui est un peu un avenir, on ne sait pas lequel, il est forcément incertain, mais je trouve que ça allait bien avec ce que je racontais tout à l'heure de l'aboutissement de ce disque, qui est quand même l'aboutissement de 10 ans de travail, hein, au final.
Ce disque, alors, on n'a pas encore parlé aussi des musiciens qui ont participé à ce disque, et il y en a quand même des gens qui sont de grande qualité.
Hein,
tous, et juste tous, hein, mais je suis bien d'accord, tous. D'ailleurs, moi au début, je n'ai pas vu, enfin je connais évidemment Raoul Vignal, Théo Charaf, puis quand j'ai entendu la batterie, je me suis dit, mais ça c'est Lucien, forcément.
Ouais.
Voilà, parce
mais
que c'est, vraiment, ouais. Voilà, c'est vraiment caractéristique de son jeu.
Bien sûr.
Comment tu les as tous rencontrer
avec Théo, on se connaît depuis longtemps, en fait, depuis les Nuits de Fourvière, c'est ça qui est assez drôle, parce que lui, il travaillait et moi, j'y travaillais pour la radio à l'époque, donc voilà, on s'est un peu rencontrés comme ça, et puis en fait, la scène lyonnaise étant tellement petite qu'on se retrouve tous au Troxon à un moment donné, et puis on finit par se rencontrer. Raoul, on s'est rencontrés un petit peu différemment, Lucien, on a des amis en commun, Pierre Emtiné, qui fait du violon alto sur le disque, ben lui, c'est un très vieil ami de Théo, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Aussi.
Et Cédric.
Et puis Cédric Béron, qui est un ami de très longue date pour moi et qui est l'ingénieur du son avec qui on a enregistré le disque, avec qui j'ai fait les arrangements, avec qui on a fait le mastering. Enfin voilà, on a vraiment bossé ensemble et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien aussi parce que musicalement on a les mêmes références, on se comprend très bien quand on travaille ensemble, donc c'est vrai que c'est assez fluide de bosser avec ces gens-là. Et puis le solo de guitare de Shelter qui est signé par Stéphane Kiriuel, qui lui est un guitariste breton que j'ai rencontré quand j'ai enregistré à Kerouac bonne partie de mon disque, et lui ça a été une rencontre fortuite et ça fait partie de ces belles rencontres où voilà, on se connaît pas et puis en fait il y a un truc qui fonctionne et c'est assez magique.
Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de ta voix? Comparaison n'est pas raison, ça va être bizarre. Moi sur certains morceaux j'ai l'impression d'entendre Michel Phillips, je sais pas si tu vois qui est Michel Phillips, c'est une des deux chanteuses des Mamas and Papas.
Ah oui, d'accord, oui, très bien, ouais.
C'est troublant, il y a beaucoup de chanteurs ou de chanteuses en fait qui n'ont pas le physique de leur voix, enfin je sais pas comment dire ça, c'est pas méchant, c'est pas du tout une critique mais voilà, et quand je t'entends, mais vraiment je pars très très loin quoi. Je trouve que la voix c'est quelque chose de... C'est un vrai instrument, est-ce que tu la travailles ?
Je me suis mise à chanter un peu par défaut, je pense. Je me suis toujours intéressée à la musique, j'ai toujours bien aimé les paroles des chansons, ça c'est un truc qui revient depuis très longtemps chez moi. Mais la voix en elle-même, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce que, comme tu le dis, c'est notre premier instrument et je pense que c'est celui dont on devrait apprendre à se servir en premier. Par exemple, moi j'ai pris des cours de piano quand j'étais gosse, ma prof me demandait de chanter, j'en étais incapable, ça me faisait peur, enfin voilà. Et puis bah, des fois, on apprend à se servir de sa voix aussi ou par nécessité, on l'emploie. C'est un peu le cas pour moi, que ce soit pour la voix, que ce soit pour la guitare. Moi, je ne suis pas guitariste du tout. Enfin, j'ai appris toute seule, maigrement, et j'en joue pour m'accompagner. Je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un guitar-héro. Mais voilà, je trouve ça intéressant, quoi qu'il en soit, de faire avec l'existant. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Je n'ai pas pris de cours de chant. Voilà.
Une terrible beauté. Ben voilà, je trouve que ça irait bien à Regular Girl, peut-être.
Ouais,
on va peut-être rappeler quelques dates de concert. J'ai vu que tu participais, justement, avec Théo Charaf et Raoul Vignal, au Cri des Papillons. Culturel de Jugerieux.
Cette commune dans l'Ain qui n'est pas très loin d'Ambérieu en Bugey, à un quart d'heure, 20 minutes de voiture d'Ambérieu.
Tout à fait. Donc toi, tu joues donc
moi,
avec...
Moi, je joue le 18 octobre, le vendredi 18 octobre.
Le vendredi 18
en fait,
octobre.
On fait un coplateau Nightbirds, qui est notre label et sur lequel ont été sortis et mon disque et le disque de Théo Charaf et de Raoul Vignal.
Tout
donc,
à fait. Et le lendemain, il y a une chanteuse qu'on avait invitée, Lou, Lou Nel aussi, qui joue dans ce festival. Donc vraiment, c'est intéressant. Et puis, plus loin dans le temps, tu joues au Marché Gare, donc le jeudi 14 novembre.
Oui.
C'est ça, avec un groupe anglais, je crois.
Qui s'appelle Tapir.
Tapir.
Qui est vachement bien, ouais, qui fait plutôt... C'est un peu plus pop, mais ça reste folk aussi, par essence, et c'est assez chouette ce qu'ils font.
Eh bien, écoute, on te remercie, on ira te voir dans tous les cas, et puis je vais aller à Jugerieux, parce que je vais découvrir ce lieu. Merci beaucoup, Chloé.
Merci, Guillaume.
À bientôt.
Hey. Gaëlle, cette semaine, c'est ta chronique 1 de la 17e Biennale. Beaucoup de propositions et de nouveaux lieux à explorer. Nous t'écoutons pour comprendre le thème de cette 17e Biennale.
Pour sa 17e édition, la Biennale invite la commissaire d'exposition Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris. Le titre retenu, Les voies du fleuve, Crossing the Water, interroge la relation à l'autre et à son environnement, tout en faisant écho au Rhône. Pour Alexia Fabre, le fleuve incarne métaphoriquement l'idée de rencontre avec toutes les eaux qui se rejoignent pour former un courant plus fort. La 17e Biennale expose 78 artistes internationaux présents dans 9 lieux, dont 2 nouveaux sites, les grandes locaux, ancienne usine de révision de locomotives à Oullin, et la Cité internationale de la gastronomie au Grand Hôtel Dieu. Autre nouveauté, la station métro B Gare Pardieu, qui se dote d'un remarquable espace pérenne d'exposition, l'artiste français Eddie Dubien l'inaugure. Pour les autres lieux, rendez-vous au Mac-Lyon, le cloître du Musée des Beaux-Arts de Lyon, la Fondation Vulucan, le parking LPA Saint-Antoine, l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne et le musée gallo-romain Saint-Romain en Galles. En parallèle de ces 9 lieux, se déploie Résonance, un vaste programme avec les galeries, musées, institutions culturelles, etc. Aujourd'hui, petit panorama des artistes aux grandes locaux. En entrant dans la halle 1, levez les yeux. Le Canadien Michel Debrun a constellé le plafond voûté du site avec l'œuvre « Ligne de lumière », une installation lumineuse aux captivantes formes qui semble évanescente, presque aquatique. La lumière joue avec les lignes de composition de la verrière et couronne toutes les œuvres de la halle. La Gabonaise Myriam Minidou propose, suspendue sur des fers à béton, une multitude de fragments de bras, tous dotés d'une main à l'index levé. Intitulée « Lève le doigt », l'installation questionne cette gestuelle qui tout à la fois signale, implore ou réclame. Elle renvoie aux droits des femmes. Femme mise à l'honneur également chez l'Espagnole Pilar Albarracín. Elle s'empare de la culture espagnole, ici la cuisine avec 50 cocottes minutes, pour la détourner dans son installation Marmite enragée. En s'approchant des autocuiseurs, le public entendra la vapeur des cocottes minutes former la musique de l'Internationale socialiste. Pilar Albarracín dénonce toutes les formes de violence, dont celles faites aux femmes. L'Allemande Lise Raff propose Corridor, un long passage au sein de la Grande Halle 1. Le couloir réalisé en latex donne une impérieuse envie de toucher la matière. Corridor est un espace de refuge, un havre de retraite, et ses tonalités couleur chair font songer aux carnations corporelles. De nombreuses installations sont à grande échelle, les grandes locaux s'y prêtent parfaitement. Le Colombien Ivan Argote propose avec L'autre, moi et les autres une gigantesque balançoire. La participation du public est requise. La plateforme de la balançoire penche plus ou moins d'un côté selon le nombre de personnes. L'œuvre matérialise la relation à l'autre et les conditions de son équilibre. Monument pour les personnes en mouvement est, quant à lui, un immense tunnel de l'Autrichien Hans Schabusch. Le public, invité à emprunter ce long cylindre en bois, vit une expérience autant ludique que troublante. Vous marchez légèrement au-dessus du sol, guidé par la lumière au bout du tunnel. Autre gigantesque installation immersive et sonore qui va vous interpeller, celle du compositeur français Bastien David. Il a créé un instrument de percussion, le métallophone, composé de claviers à lame d'acier pour 6 musiciens. L'instrument est surmonté d'une cloche birmane. Autour de métallophone se déploie une rivière serpentine de 1000 bouteilles en verre, plus ou moins remplies d'eau, que Bastien David a accordées une par une. Au fil de la biennale, Bastien David donne des concerts, toujours différents, et invite le public à participer à ce flux musical. La Française Mona Cara expose Cactus, une immense tapisserie suspendue à la voûte. Ce travail collectif a été réalisé avec une centaine de personnes, dont des ouvrières de l'Hôtel de la Dentelle à Brioude, en Auvergne. Cactus fait référence à ce qui pousse en terre aride pour devenir petit à petit une ville avec des châteaux d'eau. L'œuvre combine tissage jacquard, dentelle faite à la main et, insolite, des fils électriques issus du site même des grandes locaux, ainsi qu'un petit coquillage, un ormeau, choisi pour sa forme en oreille, symbole d'écoute et d'échange. Dans la deuxième halle, le Britannique Oliver Beer investit une large partie de l'espace avec The Resonance Project, qui lance une question. Quel est le lien entre les peintures rupestres et l'acoustique des sites préhistoriques ? Le projet est né dans la grotte paléolithique de Fondegaume en Dordogne, grotte dans laquelle 8 chanteurs et chanteuses ont été enregistrés individuellement sur une durée de 3 ans. Chaque écran monumental permet d'entendre les 8 voix. En déambulant, les chants se mêlent en une singulière polyphonie. Descendez bien en sous-sol pour entendre les témoignages des 8 chanteurs et chanteuses. En vis-à-vis de leur retour d'expérience, figurent des peintures réalisées avec les vibrations de leur voix qui ont déplacé les pigments. Les formes émanent des ondes du son. Magique. Le panorama de la Biennale continuera dans ma prochaine chronique. La Biennale est programmée jusqu'au 5 janvier 2025. Plus d'informations sur labiennaledelyon.com.
Merci beaucoup. Thomas, nous te retrouvons pour la lecture d'un extrait de Pterodactyle en cage de Florent Toniello aux éditions Graffiti. On en parle après t'avoir écouté.
25 mars, gazouillis. Je n'envie pas les oiseaux et leurs nids frêles. Comment les descendants des dinosaures peuvent-ils quémander des miettes dans les squares, les jardins, s'accommoder d'une vie en cage ? Pterodactyle en puissance, je déploie mes ailes, aiguise mes griffes, fonds sur la proie des miradors qui brillent au soleil, qui narguent avec insolence le sempiternel chemin de croix de la promenade quotidienne. 12 août, le Rift. Une vallée perdue où nichent des consonnes, quelle énergie me permet de les déterrer, d'en extraire les voyelles, de leur enveloppe pour triturer des phrases superflues, je navigue sur les dorsales de mes idées, sur les failles vertigineuses des nuées et émanations, éteignant au passage des volcans intrépides en moi, coulent les fluides vitaux de millions d'années de vie, lac immense peuplé de précurseurs aux pilotis solides, les montagnes accueillent le souffle qui se propage d'eux à moi, dans une ronde infinie d'éternité, je ne connais que celle-ci, les langues se percutent, se mêlent dans un chaudron de sorciers qui accouche d'un brouet que je bois tiède et où perlent quelques tropes qui m'ont choisi plutôt que je ne les découvre. La poésie tangue, vacille, éponge les murs des grottes qui suintent l'atavisme, rien ne bouge au soir, tout tremble lorsqu'au matin je ravive les braises qui me font passer sur le champ de la simplicité des fossiles à l'accablement des vers. 20 août, tempérance. De la retenue considérée comme un des beaux-arts. Retenir les larmes, enfantin. Retenir l'attention, sporadique. Retenir la colère, difficile. Retenir l'urine, quasi impossible.
C'est puissant, Florent Toniello. Il est né à Lyon, c'est vraiment un personnage étonnant.
Oui, oui, alors j'adore Florence. C'est un poète adorable, généreux, vraiment plein d'humour et il est très productif, contrairement à ce que dit le titre d'un de ses recueils. Il s'appelle Foutu poète improductif, en 2018 chez Raphaël de Surtis. Je trouve en plus qu'on a publié au Facteur Gallo Florent Toniello avec un texte très étonnant aussi, Bélusine au gasoil. Un touche-à-tout, il fait aussi de la science-fiction dans une autre maison d'édition dont il est responsable de collection. C'est un ancien responsable informatique. Enfin bref, voilà.
C'est un personnage étonnant.
Il est adorable.
On parle des éditions.
Oui,
très jolie petite collection.
Tout à fait. Alors en fait, c'est les éditions FI. Graffiti, c'est le nom de la collection.
Ah, pardon. Voilà, édition
voilà,
FI, P-H-I.
Il en a publié plusieurs.
Collection Graffiti.
Voilà, qui est une maison luxembourgeoise. Sinon, Florent a été publié dans pas mal de maisons. Je ne les liste pas, mais.
Mais là aussi, oui, voilà, c'est un très joli objet aussi avec ces personnages gravés dans la pierre là qu'on retrouve ici, qui font écho bien sûr au pterodactyle.
Exactement.
Merci Thomas.
Merci Gaëlle.
Nous Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos incontournables Gédéons. Gaëlle, à toi de commencer cette fois.
Mon Gédéon de la semaine est l'exposition The Art of the Brick au Grand Hôtel Dieu. Elle compte près d'un million de briques Lego que l'artiste américain Nathan Sawaya a monté en 70 sculptures présentées dans deux espaces. N'oubliez pas de monter à l'étage pour, entre autres, voir le squelette d'un tyrannosaure de 6 mètres de long. L'artiste propose des créations originales comme ce tyrannosaure, mais aussi des relectures de chefs-d'œuvre comme La Nuit étoilée de Van Gogh, La Joconde de Da Vinci, Le David de Michel-Ange ou encore La Victoire de Samothrace. Une pièce entière aborde le registre des vanités avec une multitude de crânes en Lego. Pièce que jouxte une zone de jeu ouverte à tous, les enfants plongent allègrement dans un bac aux airs de mini-piscine pleine de briques Lego, mises à disposition pour créer en toute liberté. L'exposition The Art of the Brick est programmée jusqu'au 30 novembre 2024 au Grand Hôtel Dieu. Elle est gratuite pour les moins de 4 ans. Plus d'informations sur theartofthebrickexpo.com.
Merci beaucoup. Des Lego, ça nous rappelle notre enfance. Guillaume.
Eh bien moi, c'est un triple Gédéon. Je voudrais rendre hommage à la scène rock ou folk, enfin en tout cas la scène musicale clermontoise, parce que vont paraître trois disques assez bons, même très très bons. Donc le premier, c'est un nouveau groupe, même si ses membres ont joué dans beaucoup d'autres groupes. Un groupe qui s'appelle Montanita et qui sort un premier disque le 18 octobre. Et c'est vraiment excellent. Alors le titre du dit c'est Dummy Light in the Chaos, donc la lumière un peu crétine, stupide dans le chaos. Je trouve que ça exprime bien un petit peu ce qu'on vit depuis les élections du mois de juillet. Le deuxième album, c'est un album d'Alexandre Delano. Alors Alexandre Delano, il a fait partie du Delano Orchestra, qui a été un groupe post-rock assez important à Clermont. Ils ont accompagné aussi un disque de Jean-Louis Murat. Voilà, donc c'est vraiment un très bon disque aussi. Et il sort aussi le 18 octobre. Et puis pour terminer, un groupe que j'aime beaucoup. Alors, il est essentiellement mené par un batteur qui s'appelle Olivier Pérez. Ce groupe s'appelle Garciaphone. Son album s'appelle Ghostfire. C'est vraiment très doux, très beau. Si vraiment vous avez envie un petit peu de douceur, eh bien je vous conseille Ghostfire. On va peut-être écouter un titre, puisqu'il s'intitule Better and Better. Donc c'était Better and Better de Garciaphone et je pense que oui, on va aller de mieux en mieux si on écoute ce disque plus souvent. Voilà, Garciaphone, le 8 novembre.
Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, ce sera une soirée à l'opéra avec l'un des premiers opéras avant-garde, Wozzeck. Le premier opéra d'Allenberg revient à Lyon après 20 ans d'absence sous la baguette de Daniel Rustioni. Incarnation de l'entre-deux-guerres, cette partition fulgurante d'après la pièce de Georges Bruckner retrace les événements violents qui s'acharnent sur Wozzeck, bouc émissaire d'un univers impitoyable. La musique de Berg traduit la cruauté du monde par une expressivité unique dans le répertoire lyrique. Richard Brunel et le scénographe Étienne Plus soulignent la pertinence de l'œuvre pour notre époque dans un environnement de surveillance accrue et de manipulation. Wozzeck se débat dans un labyrinthe mental, métaphore de notre société contemporaine. Un drame halluciné sur la condition humaine, interprété par deux intenses et puissants solistes, dont la soprano canadienne Hambourg Bred et le baryton Stéphane Degout. C'est en langue allemande, c'est surtitré en français bien sûr, c'est un opéra en trois actes, c'est un court opéra en trois actes puisque ça ne dure qu'une heure 35 et c'est sans entracte. Le livret est composé d'après la pièce Wozzeck de Georges Bruckner, création à Berlin donc en 1925. Cette nouvelle production, c'est une coproduction Opéra de Lyon, Opéra Royal de Stockholm et c'est en ce moment et jusqu'au 14 octobre. Les prix sont en fonction de la place dans la salle de 10 à 106 euros. L'acoustique est toujours bonne, même tout en haut, je le répète. Attention, il ne faut pas avoir le vertige. À l'heure où nous enregistrons, il y a encore de très bonnes places pour 10 euros. C'est moins cher que le cinéma. Allez à l'opéra, cette pièce est formidable pour l'avoir vue plusieurs fois. Je vous assure que vraiment, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup, restez curieux et à bientôt.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.